Bon dimanche, à l'écoute des programmes d'IDFM Radio, réglez vos montres, il est 13h. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans À toi les étoiles, votre rendez-vous mensuel avec l'astronomie sur IDFM Radio. Comme toujours, nous prenons de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace. Je suis Franck et aujourd'hui nous allons embarquer pour une aventure extraordinaire à la frontière du vide, là où seuls quelques privilégiés ont osé s'aventurer. Il y a 60 ans, un homme a marqué l'histoire, Alexei Leonov, premier humain à sortir dans le vide spatial, flottant au-dessus de la Terre, attaché à son vaisseau par un simple cordon ombilical. Depuis, ses sorties extravéhiculaires, aussi appelées EVA, sont devenues essentielles à l'exploration spatiale. Qu'il s'agisse de réparer des satellites, d'assembler des stations ou même d'imaginer des missions futures sur la Lune et Mars, elles font désormais partie du quotidien des astronautes. Et récemment, la Chine a frappé fort en battant un record du monde, une sortie extravéhiculaire de 9h et 6 minutes. L'occasion parfaite pour revenir sur 60 ans d'exploits en dehors des vaisseaux. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain de cette émission. Ensemble, nous allons explorer l'histoire des EVA, des premiers pas de Leonov jusqu'aux technologies les plus avancées, comme le fameux MMU, le fauteuil volant des astronautes. Alors, attachez vos ceintures et restez bien avec nous, car nous allons plonger dans les coulisses des sorties spatiales. Jean-François Pellerin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour cette 225e émission d'À toi les étoiles, où en ce mois de mars 2025, nous parlons des 60 ans de sortie spatiale de Leonov au record chinois. Jean-François Pellerin, si on résume rapidement, le 4 octobre 1957 marque le début de la conquête spatiale avec le lancement du premier satellite artificiel, Sputnik 1. C'était les Russes. Suivra ensuite le premier être vivant dans l'espace, le premier humain dans l'espace. C'était en 1961. Et 4 ans plus tard, en 1965, première sortie mondiale dans l'espace.
Oui, alors les deux grandes premières mondiales dans le vol habité, c'est Gagarine, 12 avril 61. Et en juin 63, Valentina Tereshkova, première femme. Et il y a un homme, Khrouchtchev, et il y a Sergueï Korolev, le constructeur en chef, qui veut continuer à épater l'Amérique en face et va tenter quelque chose qui n'a jamais été fait, c'est proposer à un astronaute de sortir dans le vide et de s'extraire de sa capsule au bout d'un cordon et de marcher dans le vide. Donc ça sera grâce à Alexei Leonov, qui va pouvoir le 18 mars 1965 sortir dans le vide, mais à l'époque c'est extrêmement dangereux, ça a été assez rocambolesque, car il n'arrivait pas à réintégrer le sas, tellement son scaphandre s'était mis à gonfler, il a dû le dépressuriser en partie, se retourner sur lui-même pour arriver à rentrer les pieds d'abord, pour rejoindre son commandant, qui lui était protégé par le SAS, donc il n'était pas dépressurisé. Hein. La première sortie dans le vide, il n'y avait qu'une seule personne qui était rentrée par le SAS et qui sortait dans le vide.
Pour une première sortie dans l'espace, Jean-François Pellerin, j'imagine que Alexei Leonov a subi un entraînement intensif.
Il a subi un entraînement, quand on revoit l'entraînement, C'est fou ce qu'on lui a fait subir. Par exemple, il a passé un mois en chambre d'isolement, coupé de l'extérieur. Ça, c'était au sol. Hein. Et quand il est ressorti de la chambre, on lui donne un MiG-15 avion de chasse qui doit piloter avec des manœuvres très complexes. Et on lui demande de s'éjecter et de descendre en parachute. Voilà le genre de show. Il a fait 1000 km en vélo, il a fait plus de 150 répétitions avec des avions qui fabriquent de l'apesanteur pour tester au niveau scaphandre et apprendre à marcher dans le vide où on ne peut pas s'appuyer sur quelque chose. Hein. Quand vous êtes dans une piscine, ça reproduit un peu ces choses-là quand vous êtes sous l'eau. Mais quand vous êtes dans une piscine, par exemple, quand vous nagez, vous vous appuyez sur l'eau, vous pouvez faire des mouvements. Tandis que là, on a vraiment pris conscience que c'était extrêmement dangereux, mais surtout très difficile de se mouvoir au bout d'un cordon comme ça dans le vide.
Il n'était donc pas complètement lâché dans l'espace, il était quand même attaché à un cordon avec le vaisseau spatial.
Oui, oui, il était raccroché par un cordon, parce qu'on ne voulait absolument pas le perdre.
Bien sûr.
Et sachez que même les sorties, encore aujourd'hui, ils sont hyper sécurisés, ils sont obligés de sortir par paire, deux astronautes en même temps. Ils ont des genres de mousquetons, un peu comme dans l'alpinisme, et ils sont accrochés au véhicule. Donc lui, il s'est cogné un peu à la paroi de la cabine, il a rebondi, il a essayé de se bouger, mais au total, il n'a fait que 12 minutes et 9 secondes dans le vide de l'espace. Tellement c'était dangereux, tellement c'était compliqué, et qu'il a rencontré que des problèmes, je crois qu'il faut oser le dire. Quand il a baissé en urgence la pressurisation de son scaphandre pour dégonfler, parce qu'il ne pouvait plus rentrer dans le sas pour rejoindre la cabine, il a fait ça au moment où il n'est pas en écoute au niveau du segment spatial satellite pour dialoguer avec lui. Les contrôleurs n'étaient pas au courant. Il a pris le risque sur lui-même d'appuyer sur la valve et puis de faire baisser la pression jusqu'à 0,27 atmosphère, c'est-à-dire un quart d'une atmosphère terrestre. Et deux fois, il l'a fait. Et s'il n'avait pas fait ça, il ne pouvait pas rentrer dans le sas. On avait perdu Léonov.
C'était un réflexe de survie, Jean-François Pellerin. C'était vraiment la dernière chose à faire, sinon c'en était fini pour lui.
Oui, on pourra en reparler par la suite sur d'autres sorties. Il est déjà arrivé des accidents, mais on n'a jamais perdu d'astronaute dans les sorties extravéhiculaires. Et Léonov, il a été très courageux. Il a fait la toute première. Donc c'est quelqu'un qui est né en 1934, il avait 30 ans hein, quand il a fait ça, à peu près. Et, il est né en Sibérie occidentale et il a terminé avec le grade de major général dans l'armée de l'air soviétique. Donc c'est quelqu'un, au début, il paraît, et je crois même que c'est une réalité, il avait des soucis avec la centrifugeuse qui permet de recréer une surpesanteur. Il n'était pas bon dans la centrifugeuse. Il n'était pas bon dans certains entraînements. Il y a eu des problèmes aussi au niveau battement cardiaque qui n'étaient pas réguliers. Et ils ont désigné Léonov parce que pour eux, il sortait du lot par sa force de volonté. La rapidité avec laquelle il acquiert de nouvelles compétences et sa capacité à faire face à des situations imprévues. Je vais vous prendre une anecdote. Avec sa femme et une autre personne, ils sont sortis de la route en automobile une fois. Ils sont retrouvés dans un genre de lac complètement gelé et la voiture a coulé à travers la glace. Et in extremis, Léonov et les deux autres personnes, il y avait sa femme aussi, ont pu s'extraire avant de se noyer de la voiture. Et tout ça, c'est pour dire, c'est un peu comme Neil Armstrong, hein, qui a vécu des très très grands accidents avant d'aller sur la Lune. Mais Léonov, il lui est arrivé des coups durs comme ça dans sa vie. Et il sait gérer l'imprévu. Et là, on le voit, quand il gère le scaphandre, certainement qu'au sol, je ne sais pas s'ils auraient donné l'autorisation. C'est lui qui a pris sur lui, il s'est dit, si je veux rester vivant et si je veux rentrer dans la cabine, je n'ai pas d'autre solution, hein, de dépressuriser. Et après, ils ont eu des problèmes avec la capsule Vostrod 2. Elle a baissé, au niveau alimentation, pressurisation pour l'oxygène. Il y avait beaucoup, beaucoup moins de pressurisation et il y avait une fuite sur le Vostrod 2. Donc ils sont rentrés assez vite, ils sont rentrés le lendemain.
Jean-François Pellerin, je rappelle que vous êtes journaliste scientifique et parrain de l'émission À toi les étoiles. Nous célébrons le 60e anniversaire de la première sortie dans l'espace et c'était Alexeï Léonov. Jean-François Pellerin, si ça avait été quelqu'un d'autre, finalement, qui avait été envoyé à la place d'Alexey Leonov, peut-être, malheureusement, face à toutes ces péripéties, il ne serait pas revenu sur Terre sain et sauf. Et c'est cette capacité de gérer d'Alexey Leonov qui lui a sauvé la vie.
Oui, c'est possible, parce que Leonov, il a 10 ans après, il a fait Apollo Soyuz, et il a été à l'entraînement pour le projet qui consistait à envoyer des soviétiques autour de la Lune. Et il a terminé pendant presque 20 ans à la tête de la Cité des Étoiles, patron de l'entraînement de tous les cosmonautes. Hein. Et c'était un très grand diplomate pour les relations avec les Américains. Il était très très fort et il avait un don artistique. Il faisait de la peinture, comme Alan Bean d'Apollo 12. Et il a fait des dessins de sa sortie là-haut. Il a mémorisé et dès qu'il a retrouvé son siège, déjà il était en sueur, dans son scaphandre il y avait de la buée sur toute la visière, il ne voyait plus rien dans le sas. Et son instinct de survie a fait qu'il a sauvé la situation. Et il a fait des dessins pour reproduire mentalement ce qu'il avait vécu dehors dans le vide, et c'est resté à la postérité. Ça reste le premier piéton de l'espace. Ça a été très difficile son retour sur Terre, parce qu'ils n'arrivaient pas à se désolidariser d'un module. Ils ont fait une rentrée balistique très brutale, où ils ont pris plus de 10 G de décélération. Et ils se sont posés à quasiment presque 400 km du point prévu. Et on a mis presque 2 journées pour arriver à les retrouver dans la neige, le froid, les moins 20 degrés et tout. Donc c'est pour ça qu'ils font des opérations de survie, hein, quand il y a des retours en capsule et tout, on les apprend. Et ils sont tombés dans une zone forestière, dans une zone où on a mis plus d'une journée à pouvoir les récupérer et puis pouvoir les rejoindre. C'était quand même très très dangereux, pas seulement la sortie extravéhiculaire, mais les retours sur Terre de l'époque.
Et en quelle année est décédé Alexey Leonov, Jean-François Pellerin?
Alors il est décédé, pour la petite histoire, j'étais à Moscou en octobre 2019, avec notamment Jean-Pierre Ennuret, le mari de Claudie Ennuret, et on a visité la Cité des Étoiles, et à un moment donné, comme Jean-Pierre Ennuret a connu Leonov comme patron à la Cité, on en a parlé, et il m'a dit il est décédé il y a quelques jours. Et il s'avère qu'il est décédé en 2019, c'était quelques jours avant notre voyage, et Ennuret, il m'a dit il a terminé pas avec une belle mort, il avait un genre de diabète et il faisait de la goutte aussi, un diabète très avancé qui l'a obligé à se faire amputer des phalanges des doigts. Donc pour quelqu'un qui est devenu le premier piéton de l'espace, qui aurait pu mourir comme piéton de l'espace, et vous savez le grand souci des astronautes qui sortent dans le vide avec un scaphandre, ils ont les phalanges qui gèle. C'est ce que me disait Philippe Perrin, qui a fait 3 sorties en une mission de navette spatiale. Ils sont obligés de se couper les ongles très courts, parce que en sortie extravéhiculaire, au niveau des gants, quand ils restent très longtemps, au bout d'un moment, il y a comme du gel, on a les doigts qui souffrent et on pourrait même perdre ses ongles. Voilà, ça c'est une parole de Philippe Perrin, qui a fait 3 sorties extravéhiculaires. Donc, faire une sortie extravéhiculaire, ça reste un exploit hors norme. Et encore aujourd'hui, quand on parlera tout à l'heure, vous imaginez, les Chinois, ils ont fait tomber un record du monde. 9h06, en sachant que quand vous sortez dans le vide spatial, avant, il faut faire comme la plongée sous-marine, il faut retirer les bulles d'azote qui sont dans le sang, la dénitrogénation, tout ça, ça demande un délai. Et quand ils reviennent dans la station ou la capsule, il faut se déshabiller, il y a tout un temps de travail très long. Donc imaginez, si vous restez 9 heures dans le vide spatial, ça veut dire que pendant 10 heures, 11 heures ou 12 heures, vous êtes enfermé dans un scaphandre, comme un petit véhicule spatial.
Et je conseille de regarder le film The Space Walker, qui est un film qui raconte l'histoire d'Alexei Leonov, notamment son épopée, depuis le décollage, sa sortie dans l'espace, son retour dans le vaisseau ô combien difficile, et puis son retour sur Terre avec l'atterrissage à 400 km du point prévu, et sa récupération ô combien difficile. Toutes les difficultés dont vous avez parlé, Jean-François Pellerin, sont bien démontrées dans ce film.
Voilà, et puis pour Neil Armstrong, vous avez First Man, oui, qui raconte évidemment la vie de Neil Armstrong. Ils ont un point commun, tous les deux, ils ont vécu de grands accidents avant leur vol dans l'espace.
Jean-François Pellerin est notre invité, il est journaliste scientifique et parrain de l'émission « À toi les étoiles ». On va faire une petite pause musicale avec Miki, une artiste franco-coréenne de 26 ans, une véritable étoile montante de la pop. Elle nous embarque avec son titre « Échec et mat ». Restez bien avec nous, car juste après, nous replongerons dans les 60 ans de sortie spatiale avec des moments mythiques, comme l'utilisation du MMU, ce fauteuil volant qui a permis aux astronautes de se déplacer librement dans l'espace, et bien sûr, nous reviendrons sur le nouveau record du monde de sortie extravéhiculaire établi par la Chine, avec 9h06 en dehors de leur station spatiale. A tout de suite sur IDFM Radio.
À 19h, j'ai bloqué sur un mec. 19 mois pour qu'il me sorte de la tête.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, dans votre émission « À toi les étoiles », où aujourd'hui nous explorons 60 ans de sortie spatiale de Leonov au record chinois. Avec moi, Jean-François Pellerin, journaliste et scientifique et parrain de cette émission. Avant la pause, nous avons évoqué les débuts des sorties extravéhiculaires avec Alexei Leonov, une première historique qui a ouvert la voie à bien d'autres exploits, mais Leonov n'a pas été le seul à marcher dans le vide spatial. De nombreux astronautes lui ont succédé, chacun repoussant les limites de l'exploration, n'est-ce pas Jean-François Pellerin ?
Oui, donc les Américains, un peu comme toujours depuis le Spoutnik, ils étaient toujours un peu en retard d'un métro. Ils faisaient les grandes premières équivalentes quelques semaines, quelques mois après. Donc c'est le cas d'Edward White, qui va sortir dans le vide avec Gemini 4. Et là, on peut dire que il s'est passé quelque chose d'un peu de bizarre. Pour raconter un peu l'anecdote et l'histoire, c'est qu'il voulait plus retourner dans la capsule. Il y avait un genre de truc un peu d'euphorie, je sais pas, il était tellement bien. Alors il restait deux fois plus longtemps, hein, une vingtaine de minutes par rapport à Leonov. Et Edward White, on a dû le sermonner plusieurs fois depuis le centre de Houston pour lui faire comprendre que son petit plaisir de sa sortie dans le vide, maintenant c'est terminé, il faut qu'il regagne la capsule. Et finalement, bon, il a regagné sa capsule. Il y avait un truc en plus sur la sortie de White pour les Américains, c'est qu'il avait un genre de petit pistolet propulseur, à propulsion avec des petits jets de gaz, pour se mouvoir un peu mieux. Et on avait déjà fait un nouveau progrès, c'est qu'on arrivait mieux à se mouvoir dans le vide, beaucoup mieux que Leonov. Et ça a été une grande première, donc pour les Américains, pour faire la première sortie extravéhiculaire. Et la fin d'Edward White, un drame terrible, il va mourir en 67, deux ans après sa sortie extravéhiculaire, il va mourir dans la cabine Apollo 1, où il y a un incendie violent au mois de janvier 1967, avec Grissom et Chaffee.
Les technologies évoluent ensuite, et on a de plus en plus de sorties extravéhiculaires. Et quelque part, Jean-François Pellerin, on peut dire après que c'est banalisé, ces sorties
Non, je crois pas qu'on pourra dire un jour banalisé. Ça reste très dangereux, ça reste quelque chose qu'on fait pas forcément tous les jours quand il y a une station, et c'est vrai que c'est pas tous les jours. Et les sorties, je peux vous prendre l'anecdote, en 2013, on a failli perdre un astronaute italien parmi Tano. Vous savez, dans le scaphandre américain EMU qu'on a utilisé à partir de la navette spatiale il y a 40 ans, il y a eu une fuite d'eau, puisque vous avez un sous-vêtement de thermorégulation pour refroidir l'environnement du scaphandre que vous portez sur vous. Il y a eu une fuite d'eau à l'arrière de son corps et l'eau est arrivée dans le casque jusqu'au niveau du nez. Et il a été obligé de réintégrer la station, mais dans un temps record, avec des réflexes de survie pour revenir en tirant le cordon. Il savait qu'au bout du cordon, ben, il y avait le sas, il allait les réintégrer. Et in extremis, on lui a défait le scaphandre. Pour la première fois, un astronaute, c'était en 2013, aurait pu se noyer dans le vide spatial à cause d'une fuite d'eau dans son scaphandre.
Oui,
donc c'est pour vous dire que c'est toujours très dangereux et tout le monde chez les astronautes et cosmonautes ne font pas des sorties extravéhiculaires. Ça nécessite quand même un entraînement en piscine, un entraînement en vol parabolique et il y en a certains qui sont obligés même de faire du yoga ou de faire des disciplines pour être zen. Parce que quand vous êtes enfermé, moi je peux vous en parler, j'ai testé un scaphandre analogue à la Mars Society. Mais au bout d'un moment, vous êtes enfermé. Vous êtes quand même enfermé. Vous savez, l'autre jour, j'étais voir une table ronde, il y avait l'astronaute Michel Tognini, et il y avait un commandant de sous-marin nucléaire, lanceur d'engin. Et il a dit, tous les ans, dans la Marine nationale, sur les sous-marins, on est obligé de remonter en surface à cause d'une crise de claustrophobie d'un marin qu'on n'a pas détecté à l'entraînement. Donc ils sont obligés de faire une piqûre de calmant pour le sous-marinier, de remonter, d'ouvrir un sas et de demander un hélicoptère avec hélitreuillage pour sortir le marin. Donc on peut être dans un scaphandre, mais c'est pas donné à tout le monde. Il faut pas souffrir de claustrophobie. Et puis il faut épouser le vêtement, le scaphandre qui pèse jusqu'à 150-200 kilos. Hein. C'est un véritable petit véhicule spatial autonome. Vous pouvez faire vos besoins, vous pouvez faire pipi, enfin tout est prévu. Vous pouvez rester, je sais pas si vous voyez, les Chinois, plus de 9 heures dans le vide de l'espace. Donc progressivement, on a fait des choses de plus en plus longues et avec de plus en plus d'autonomie.
Et d'ailleurs, je ne peux que conseiller un de vos ouvrages, Jean-François Pellerin, consacré au scaphandre.
Oui, oui, le guide des combinaisons spatiales. Plus de 10 ans après, on arrive encore à le trouver. Et un autre livre où je raconte dans Aventure dans l'espace 20 récits authentiques, et j'ai un chapitre complet qui raconte l'aventure de Léonov.
Jean-François Pellerin, je rappelle que vous êtes journaliste scientifique et parrain d'À toi les étoiles. Nous parlons des 60 ans des sorties dans l'espace, les EVA. Qu'est-ce que ça veut dire justement cet acronyme ?
Alors ça veut dire, donc il y a deux termes pour bien comprendre. IVA, ça veut dire Intravéhiculaire Activity, c'est un scaphandre qui est fait pour compenser une baisse de pression, une décompression, un souci. C'est pour ça qu'à côté de Léonov, le commandant Belaïev, il n'a pas défait son scaphandre, hein, il a gardé son scaphandre, parce qu'il y avait une baisse de pressurisation carrément dans la cabine. Donc il fallait protéger les deux hommes. Donc, et EVA, ça veut dire Extra Vehicular Activity, activité hors véhicule, à l'extérieur d'un véhicule. Et on a même fait des choses qui sont très rares. Sur la station Mir en 97, il y a eu un véhicule de ravitaillement Progress qui est venu cogner le module Spectre de la station, qui s'est mis à fuir. Donc il n'y avait plus d'air, plus d'oxygène, et on sait faire aujourd'hui des sorties intravéhiculaires activity, des IVA, en scaphandre d'EVA. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés pour faire un dépannage dans le module qui était dans le vide spatial. Ils ont réintégré le sas pour revenir après dans la station, dans la zone pressurisée. Donc ça, c'est comme une sortie dans le vide spatial, mais vous êtes dans un vaisseau spatial où il y a une panne de pressurisation et vous rentrez, vous êtes dans le vide, dans le module. Ça, on a été capable de faire ça aussi.
Jean-François Pellerin, j'aimerais maintenant qu'on parle des MMU, le fauteuil volant des astronautes.
Oui, alors, 20 ans après Léonov, on a un homme que j'ai eu la chance de rencontrer, Bruce McCandless, qui est devenu le premier homme satellite monté sur une unité de mobilité, MMU, un genre de fauteuil de l'espace. Il a pu sortir de la navette spatiale, c'était le 7 février 84, et il s'est éloigné carrément jusqu'à 100 mètres de distance de la navette. C'était possible de faire ça, il est resté plusieurs heures. Vous imaginez, il est à 400 mètres, à 400 km d'altitude, il voit le vide spatial, il voit la Terre en grand qui défile sous ses pieds. Il a eu le temps de faire 3 ou 4 fois le tour de la Terre à la vitesse où ça va. Il est à la vitesse d'un satellite, hein. Il est à 8 km par seconde. Et ça, on ne l'a pas fait beaucoup de fois. Les Russes ont voulu essayer de copier ça, et avec Serebrov, en février 1990, il sort de Mir, la station orbitale Mir, avec un fauteuil volant proche du MMU, donc qui s'appelle Icarus, qui est en version donc soviétique. Et lui, il va sortir de la station Mir, mais on ne coupe pas le cordon. Parce que la station Mir, elle ne peut pas manœuvrer comme la navette spatiale pour changer d'orbite, de trajectoire, avec un bras robotique pour aller chercher Bruce McCandless, il avait fallu le sauver. On aurait pu avec la navette, avec Mir, ce n'était pas possible. Donc il est sorti avec un cordon de sécurité. Et on ne l'a jamais refait. Vous savez pourquoi on ne l'a jamais refait? Parce qu'on a trouvé une autre astuce de faire un genre de système sac à dos, un genre de système scooter qui s'appelle le SAFER, qu'on a fait en 1994, qui est un genre de scaphandre qui a des jets de gaz qui propulsent et qui permet à l'astronaute de se mouvoir avec une certaine stabilité. Mais bon, la technologie scaphandre Orlan, Orlan côté russe et EMU côté américain, c'est des technologies qui ont 40 ans d'âge. C'est pour ça, si vous achetez mon guide des combinaisons spatiales, il n'est pas périmé 10 ans après. Hein. Les technologies, elles changent tous les 30 ou 40 ans. Hein, vous savez, c'est comme le Soyouz, la capsule Soyouz, ça fait 60 ans. Hein. Donc, les scaphandres n'ont pas évolué beaucoup, mais c'est de la très haute technologie. Hein. Le scaphandre, par exemple, extraviculaire, donc maintenant pour une planète, pour marcher sur la Lune, comme Neil Armstrong, c'était des scaphandres qui faisaient entre 84 et 96 kilos et 22 épaisseurs de matériaux. Hein. Même les chaussures, il y a plusieurs épaisseurs, c'est quelque chose. Il y a même une structure anti-météoritique. Si vous êtes là à subir des toutes petites particules qui vous arrivent dessus, il n'est pas question d'avoir une fuite grave, une décompression, une dépressurisation. Donc les scaphandres sur la Lune étaient plus légers, parce qu'on est quand même en gravité plus faible, 1/6, mais on n'est pas dans le vide spatial autour de la Terre. Donc sur la Lune, on a eu 2 modèles de scaphandres et il n'y a jamais eu de gros soucis. Ils pouvaient tenir en autonomie 8 heures, un peu plus de 8 heures. Dans les sorties, il y a plein de travail. Hein. Par exemple, on a assisté à des superbes images de Thomas Pesquet, qui détient quand même un record européen. Il a passé plus de 400 jours dans l'espace. Il a passé 40 heures dans le vide spatial. Et on l'a vu, il fait minuscule quand vous le voyez en direct avec les centres de contrôle, où il installait des gigantesques panneaux solaires. Donc les sorties extravéhiculaires, bien évidemment, c'est pour des travaux de maintenance, c'est pour des travaux d'assemblage de la station. Si vous imaginez que la station internationale habitait depuis 25 ans, il a fallu plus de 200 sorties extravéhiculaires pour assembler la station. C'est énorme. Et vous savez que le nombre de sorties extravéhiculaires depuis 60 ans et Léonov, on est entre 400 et 450 sorties extravéhiculaires.
Jean-François Pellerin, vous êtes journaliste scientifique et parrain d'À toi les étoiles. Et avant de poursuivre notre voyage à travers 60 ans de sorties spatiales, on fait une nouvelle pause musicale avec Kygo, maître incontesté de l'Electro Child, qui nous embarque dans son univers envoûtant. Mais ne bougez pas, car juste après, on continue à explorer ces missions incroyables qui ont marqué l'histoire de l'exploration spatiale, et notamment ces 450 sorties spatiales. C'est énorme! On en parle juste après. Reste avec nous sur IDFM Radio.
Will you keep strong? Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio dans votre émission À toi les étoiles où aujourd'hui nous revenons sur 60 ans de sortie spatiale de Léonov au record chinois. Avec moi Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain de cette émission. Jean-François Pellerin, vous nous avez dit qu'en 60 ans, il y a eu 450 sorties dans l'espace et ça s'est pas toujours bien passé, hein. On sait d'ailleurs pour la première sortie dans l'espace avec Léonov que ça s'est pas bien passé pour lui, mais il y a eu aussi d'autres incidents, Jean-François Pellerin.
Oui, oui, il y a eu des soucis. Un exemple, le 9 décembre 88, le Léonov français, c'est Jean-Loup Chrétien, qui sort de la station orbitale Mir. Il reste un peu plus de 6 heures. Et au moment de regagner, il a plein de buée sur la visière, il voit plus rien. Et à un moment donné, il rentre dans le sas et son cordon se coince avec la fermeture du sas. Donc, réflexe de survie, il se retourne, il fait manœuvrer le sas, il fait rentrer le cordon. Et il était en limite avec les alarmes Staffan, en limite oxygène. Et il est rentré in extremis et il aurait pu perdre la vie, quoi. Donc, disons les choses, encore aujourd'hui, tous les astronautes qui font des sorties en scaphandre, ça reste quelque chose de dangereux. Et on ne les fait pas sortir tout seul, comme à l'époque de White et Léonov, où c'était des sorties uniques d'une seule personne, par deux. Et exceptionnellement, on l'a fait par trois une fois. C'est en mai 92, et c'était totalement improvisé. C'était pour saisir un satellite, je crois que c'était une Intelsat, qu'on avait attrapé avec le bras, et ils sont venus pour faire un dépannage, et ils sont montés sur l'engin, et ils étaient trois astronautes dans le vide. C'est la seule fois dans le monde des EVA qu'on a fait ça.
Mais Jean-François Pellerin, toutes les sorties dans l'espace ne se sont pas mal passées quand même.
Non, 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 il n'y a pas eu 450 incidents, parce que, je vous ai dit, c'est une technologie qui a 30-40 ans d'âge, donc c'est quand même très très bien maîtrisé, et en permanence, ils ont l'appui des contrôleurs, ils ont l'appui des autres astronautes qui sont dans la station ou dans la cabine, qui observent ce qui se passe à l'extérieur, qui peuvent les aider à prendre une décision plus rapide, parce qu'ils voient quelque chose, un incident qui est en cours. Donc, on peut pas dire, non, qu'il y a eu plus de 400 incidents. Il y a des fois où ça se passe parfaitement bien. Mais c'est un effort physique, physiologique. Je crois que c'est Jean-Loup Chrétien qui avait dit, c'était comme 6 heures ou 7 heures dans le vide spatial, c'est comme pratiquer deux matchs de football américain ou de rugby. On est épuisé, lessivé, on est en sueur, et quand ils sortent du scaphandre après avoir regagné le sas, ils sont vidés, fatigués. Maintenant, il y a les Chinois, hein, je vous ai dit. Donc maintenant, les Chinois, depuis 10 ans, ils ont leur station. Et l'autre jour, ils ont fait tomber un record du monde, qui est passé un peu inaperçu. Ils ont pour la première fois marché dans le vide de l'espace pendant plus de 9 heures. Donc vous imaginez l'autonomie du scaphandre. Pendant plus de 9 heures, ils ont travaillé à l'extérieur de Tiangong 3, la station orbitale chinoise.
Vous qui disiez qu'au bout de 7 heures de sortie dans l'espace, ils étaient épuisés, alors j'imagine dans quel état devaient être les astronautes au bout de 9 heures et 6 minutes de sortie dans l'espace. Hein. Jean-François Pellerin, parmi les 450 sorties dans l'espace qu'il y a eu en 60 ans, est-ce qu'il y en a certaines qui sont sorties de l'ordinaire?
Ah oui, une EVA qui est assez extraordinaire. On l'a fait avec Apollo 15, Apollo 16 et Apollo 17. C'est des EVA, des sorties extravéhiculaires entre la Terre et la Lune. On en a fait sur les trois vols Apollo de la fin du programme. Vous savez, pour aller chercher du matériel, des équipements scientifiques ou des cassettes de caméras à l'extérieur sur le module de service, là où il y a tous les réservoirs, sur le module d'Apollo. Et on a fait ça avec un astronaute notamment que j'ai rencontré, à Worden, qui est mort il n'y a pas longtemps, sur Apollo 15. Et sur le retour entre la Lune et la Terre, ils sont à plus de 100 000 km de la Terre. Donc imaginez le panorama qu'ils ont. Ils sortent pas longtemps en général, c'est pas plus de 30 minutes, une heure et des poussières. Juste, et ils sortent, c'est pas une vraie sortie dans le vide de 7 à 8 heures, hein. Mais c'est fabuleux parce qu'ils voient un paysage extraordinaire. D'un côté, ils voient la Lune et de l'autre côté, ils voient la Terre. Et ils sont à plus de 100 000 km et s'il y avait un pépin, ben, je sais pas comment on pourrait les... Donc ils sortent pas très longtemps, les deux autres astronautes sont dans le module de commande, ils attendent la sortie, que tout se déroule bien. C'est dangereux, mais c'est spectaculaire, hein, quand vous demandez à ces astronautes de pouvoir sortir dans le vide entre la Terre et la Lune. Donc on en a fait trois EVA de ce style-là.
Jean-François Pellerin est notre invité dans cette émission À toi les étoiles. Il est journaliste scientifique et parrain d'À toi les étoiles. Nous célébrons les 60 ans de la première sortie dans l'espace. Jean-François Pellerin, on a parlé d'hommes, mais est-ce qu'il y a eu aussi des femmes qui sont sorties dans l'espace ?
Oui, donc les toutes premières femmes, c'est en juillet et octobre 84, on a Svetlana Zavitskaya pour les Russes, et on a l'américaine Catherine Sullivan pour la première américaine. Hein. Il y a eu une première chinoise aussi, donc... Et dans la terminologie, on dit le Léonov féminin américain, le Léonov soviétique chez les femmes, etc. Donc c'est rentré un peu dans l'histoire. Et puis il y a des très beaux records. L'homme qui a fait le plus de sorties extravéhiculaires dans une carrière, c'est le russe Anatoly Solovyov, qui a fait exactement 70 heures en cumul de 16 sorties. Il a passé plus de 3 jours de sa vie dans le vide, dans un scaphandre. C'est fou, hein, quand on voit ça. Et les femmes, vous savez, la femme et l'astronaute, là où on a dit, ils sont un peu coincés là-haut dans la station, ils devaient faire 9 jours dans l'espace, ils regagnent la Terre bientôt, là, au bout de 9 à 10 mois. Elle a battu Peggy Whitson et elle est la femme la plus... longue dans le vide spatial, avec 62 heures dans le vide de l'espace.
Et on a eu des femmes européennes qui sont sorties dans l'espace, Jean-François Pellerin ?
Peut-être côté italien, l'italienne. J'ai peur de dire une bêtise, je crois qu'il y en a dû y en avoir une ou deux, mais j'ai pas l'assurance, quoi. Mmh. Chez les Russes, les Américains, chez les Canadiens, il y a des Canadiennes. Et l'Europe... Oui, il y en a peut-être une ou deux, mais j'ai pas les noms.
Jean-François Pellerin est journaliste scientifique et parrain d'À toi les étoiles. Il est notre invité pour cette émission À toi les étoiles, puisque nous célébrons le 60e anniversaire de sortie dans l'espace. On fait une dernière pause musicale avec un titre qui bouge, Move Like Jagger de Maroon 5 avec Christina Aguilera. De quoi recharger les batteries avant la dernière partie de l'émission. Mais surtout, restez avec nous, car ce n'est pas encore fini. On a encore quelques anecdotes fascinantes à partager sur les sorties spatiales et nous parlerons notamment des scaphandres, ce qui est très important pour que les astronautes puissent sortir en toute sécurité dans l'espace. Alors ne décrochez pas, on revient tout de suite sur IDFM Radio.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
C'est IDFM et c'est la dernière partie de cette émission À toi les étoiles où aujourd'hui nous explorons 60 ans de sortie spatiale avec Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain de cette émission. Pendant la pause musicale, Jean-François Pellerin m'a confirmé une information importante. C'est bien Samantha Cristoforetti, qui est italienne et qui est devenue la première femme européenne à réaliser une sortie extravéhiculaire sur la Station Spatiale Internationale. N'est-ce pas, Jean-François Pellerin ?
Oui.
Et puis, il y a un autre grand événement aussi, dont vous m'avez parlé hors antenne et qu'on n'a pas mentionné dans cette émission et qui mérite qu'on s'y attarde. L'année dernière, lors de la mission Polaris Dawn, Jared Isaacman et Sarah Gillis ont réalisé la toute première sortie spatiale privée et touristique civile à bord d'un Crew Dragon de SpaceX. Et ça, c'est une avancée majeure, hein, Jean-François Pellerin, non seulement pour les vols commerciaux, mais aussi pour l'avenir des missions extravéhiculaires dans le cadre du tourisme spatial, et puis des expéditions lunaires et martiennes, c'est vraiment encourageant. Hein.
Oui.
Voilà, bon, je l'ai dit, j'aurais pu vous laisser le dire, hein, c'est vous l'invité quand même. Jean-François Pellerin, on va maintenant parler des combinaisons spatiales. Vous avez dit tout à l'heure qu'elles ont peu évolué en 40 ans, mais pour les futures sorties extravéhiculaires, on peut imaginer, avec l'avancée des technologies, qu'elles vont évoluer quand même.
Oui, oui, on va faire des scaphandres certainement plus légers, moins volumineux, plus maniables. Regardez, il y a des choses tellement bêtes. Vous savez que quand vous avez le nez qui chatouille, qui gratte, et que vous êtes coincé dans la bulle du casque du scaphandre, on peut pas prendre la main directement et aller se gratter le nez. Vous savez comment on fait? Il y a une genre de scratch, une genre de petite éponge, un truc qui gratte à l'intérieur qui a été mis, et la personne peut aller mettre le nez et gratter son nez. Ça a l'air idiot, mais au début on n'avait pas prévu ça. Donc il faut tout prévoir, et c'est vrai que une fois que vous êtes dans le scaphandre, vous êtes en parfaite autonomie, mais je ne sais pas si un jour on va tenir 10 heures ou 15 heures dans un scaphandre. Vous savez, quand on arrive à 9 heures, c'est quand même, on est dans les limites de l'humain, parce que l'astronaute, s'il est plus opérationnel et s'il est trop fatigué, il risque de faire des erreurs. Vous savez, c'est comme dans l'alpinisme, s'ils sentent qu'ils sont bons pour attaquer le sommet à partir du dernier camp, le camp 4 ou 5, après le camp de base, pour faire le sommet, quelquefois ils sont que deux, et ils se sentent en forme, ils disent on y va, on fait le sommet. Mais il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir des erreurs qui sont commises en montagne, dans le monde sous-marin ou dans le monde du spatial. Mais comme je vous ai dit, avec l'histoire du sous-marin nucléaire, la claustrophobie, parfois, on ne peut pas la détecter avant. On va avoir quelqu'un qui va faire une crise de claustrophobie qu'il faut mettre sous calmant et qu'il faut évacuer au plus vite. Hein. Avec une différence, le sous-marin nucléaire, il reste que 3 mois maximum sous l'eau, 200 mètres au fond de l'eau, et il y a, sur les sous-marins français, 110 personnes. Sur les 110, il y en a 5 qui connaissent exactement l'endroit où ils sont. Tous les autres ne savent pas où ils sont. Il y a des petits messages pour échanger avec la famille, et quand il y a une crise de claustrophobie, il faut intervenir très très vite, puis pour pas que ça dégénère avec l'équipage, avec les autres sous-mariniers, etc. Et dans les sorties extravéhiculaires, c'est obligatoire en paire, ils sont toujours deux, comme les cordées en montagne, hein. Et une fois, on l'a fait à trois, mais en général, c'est toujours à deux. Mais on n'est pas sûr, quand on discute avec Perrin ou d'autres astronautes qui ont fait des sorties extravéhiculaires, on n'est pas sûr que quelqu'un parmi les deux serait capable d'aller chercher un astronaute et de le porter à bout de bras, le déplacer. C'est pas sûr. Vous savez, c'est comme dans le secourisme, dans la natation, quand il faut ramener une personne en train de se noyer, puis la tenir par le bras, vous avez quand même 70-80 kilos plus l'eau, tout ça, c'est un effort énorme à faire. Hein. C'est comme quelqu'un qui saute en parachute en double, il y a deux personnes qui sautent en même temps, hein. C'est pas aussi simple que ça. Donc c'est pas sûr qu'on pourrait sauver une personne. En général, le réflexe, comme l'italien, il suit le cordon, parce qu'il sait qu'au bout du cordon, il y a le sas, donc il sera sauvé, et il essaye plein pot, à toute vitesse, de revenir, en se disant, sinon je vais me noyer. Ça avait été un gros coup dur, hein, ça. J'en ai discuté avec l'instructeur Hervé Stévenin, qui instruit les sorties extravéhiculaires à Cologne avec les astronautes au fond d'une piscine. Il a dit qu'ils ont vraiment eu chaud, ils ont vraiment failli perdre un astronaute européen, là.
Jean-François Pellerin, on pense à Mars aussi, puisque d'ici quelques décennies, l'homme ira sur Mars. Alors là aussi, il va falloir adapter les scaphandres.
Oui, donc les scaphandres pour Mars seront certainement plus légers que les scaphandres de la Lune d'Apollo. La Lune, c'était entre 80 et 100 kilos, pratiquement. Et certainement que pour Mars, on avait fait une évaluation avec la Mars Society, ça serait autour de 40, 45, peut-être 60, vraiment, vraiment maximum. Mais le scaphandre serait deux fois moins lourd qu'un scaphandre lunaire, parce que la pesanteur martienne est d'un tiers, 0,38, et sur la Lune, elle est d'un sixième. Et si on fait des choses à 200 kg autour de la Terre, c'est qu'on est à 0G, on est totalement dans le vide et en apesanteur. Il y a toutes les technologies, une meilleure visière, pouvoir regarder facilement à gauche comme à droite, la possibilité de mieux protéger les mains, parce qu'au bout d'un moment, il y a comme un gel, on sent quand même, n'oublions pas que quand on sort en sortie extravéhiculaire, autour de la Terre, côté ombre, vous êtes à moins 200 degrés, hein, c'est pas loin du zéro absolu, et vous montez à plus 150 degrés côté soleil. Donc vous êtes vraiment dans un petit véhicule spatial, vous êtes protégé.
Et pour en savoir plus, Jean-François Pellerin, on ne peut que conseiller aux auditeurs de se procurer votre ouvrage sur les combinaisons spatiales.
Le guide des combinaisons spatiales, chez Tessier Ashpool, un éditeur qui est à Chantilly, dans l'Oise. Puis mon autre livre qui raconte l'histoire des vols dans l'espace, où il y a un chapitre sur Léonov, qui a eu une vie dingue, quoi. C'est tout un roman, vous savez. Léonov, c'est comme Neil Armstrong, hein, vraiment un roman.
En effet, Jean-François Pellerin. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette émission à Toi les étoiles sur IDFM Radio. Un grand merci à mon invité Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain de cette émission, pour toutes ces précieuses explications sur 60 ans de sortie spatiale. Merci Jean-François Pellerin.
Merci, merci à tout le monde. Au revoir.
Au revoir. Et merci également à vous, chers auditeurs, d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve le dimanche 20 avril, toujours de 13h à 14h. Pour une nouvelle émission où, comme toujours, nous prendrons de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace. D'ici là, restez curieux, gardez les yeux tournés vers les étoiles et à très bientôt sur IDFM Radio. Explorez les mystères du cosmos avec Franck, votre guide céleste dans À toi les étoiles. Tous les troisièmes dimanches du mois, de 13h à 14h, plongez dans l'astronomie et l'astronautique. À toi les étoiles, l'astronomie à la radio, l'émission sérieuse mais jamais ennuyeuse, où les étoiles révèlent leurs secrets. Rendez-vous avec Franck le troisième dimanche de 13h à 14h. Parce que rêver d'explorer l'espace, c'est déjà commencer le voyage.